Monde noir, deuxième partie. Et Jacques, alors tu nous emmènes toujours aux États-Unis ?
Aux États-Unis. Donc c'est un roman de Ace Atkins qui s'appelle Retour à Jéricho. C'est bien aux États-Unis, par contre. C'est paru aux éditions du Masque et c'est traduit par l'excellent Jean Hesch.
De toute façon, aux États-Unis, il y a même Paris, Texas.
Voilà. Donc, en fait, nous avions découvert, peut-être vous en souvenez-vous, Ace Atkins, en 2006 avec Blues Bar. On avait vraiment beaucoup aimé. Son héros était un professeur, il s'appelait Nick Travers, spécialiste en musicologie. Il adorait les vieux blues du Sud, et il recherchait leurs compositeurs. Et ça le mettait souvent dans des situations compliquées.
Tu fais bien de rappeler un peu l'histoire parce que c'est quand même un peu optimiste de penser que nos auditeurs se rappellent d'une de nos chroniques de 2006.
Voilà, c'est pour ça que je le rappelais. Mais bon, en fait, là, c'est un autre héros. Et en fait, on reste quand même dans le sud, dans le Mississippi, puisque le Jéricho en question, en fait, c'est le nom d'une ville du Tibeha County, en plein milieu de rien, en fait.
Comme souvent aux États-Unis, dans le Mississippi
néanmoins, mais en plein milieu de rien. Le roman en VO s'appelle The Ranger, et c'est pas pour rien parce que le personnage principal, Quinn Colson, c'est un ranger, un vétéran d'Irak et d'Afghanistan qui rentre dans sa ville natale, donc Jéricho, pour l'enterrement de son oncle, qui est aussi le shérif du patelin, enfin qui était. Lequel oncle se serait suicidé.
Oui, parce que tu dis qu'il était, voilà. C'est qu'il est mort.
Et oui, parce que son enterrement. Et il se serait suicidé. Mais c'est une hypothèse qui ne plaît pas franchement à Quinn, ni à l'adjointe de l'ex-shérif, l'adjointe s'appelle Lily Virgil. C'est les deux, apparemment, à qui ce suicide a l'air de poser problème. Et à eux deux, ils vont essayer de comprendre ce qui s'est vraiment passé. Et en fait, ils vont remuer tout un tas de trucs, disons, qui auraient dû rester cachés.
La boue du Mississippi.
Voilà. Et comme Colson est un ranger, c'est pas le genre de type qui se laisse marcher sur les pieds en tendant l'autre joue, si je puis me permettre. Et donc, il va se défendre avec une certaine vigueur qui lui vaudra quelques bleus et quelques belles estafilades. C'est donc un mélange assez habile de western, de polar et de roman noir. Et Atkins va nous raconter au travers d'un roman qui est vraiment très rythmé, parfois un peu violent, un roman d'enquête et aussi un roman d'action. Il va nous raconter le Deep South, comme on le dit là-bas aux États-Unis, donc le Sud profond.
C'est mieux en français.
Oui, le Sud profond, avec sa misère, la misère physique, la misère intellectuelle et la misère sexuelle de ce pays. Ils sont qu'à quelques encablures de Memphis, et pourtant on a presque l'impression qu'ils sont dans un autre siècle, bien qu'ils aient la télé, le câble, les téléphones portables, les gros 4x4.
Mais le Mississippi reste des États-Unis les plus pauvres. Hein.
Voilà, et comme souvent aux États-Unis, en plus, il y a l'omniprésence de la religion. Un pays, alors là, une région où en fait pratiquement n'importe qui peut se décider de s'instituer prêcheur et de fonder son église, ça aide pas franchement au développement harmonieux.
Marc prêcheur à Jéricho, ça en jette
ben
quand
oui.
même. Hein.
Sans compter les armes. Alors là, en plus, dans le Mississippi, enfin comme partout aux États-Unis, à part dans les grandes villes, je pense, tout le monde en a, et quasiment personne, alors là, surtout dans ce roman, n'hésite à s'en servir. Ceci dit, j'ai dit qu'ils sont dans le siècle dernier, mais en fait, ou dans le siècle passé, mais en fait, ils sont quand même de notre temps, parce qu'il est quand même pas mal question de drogue, de corruption, de prévarication, de promoteurs véreux, qui sont aussi mafieux. Et S. Atkins, vraiment, a un vrai talent pour nous raconter ça sur une intrigue qui est pas au départ qui semble pas extraordinaire, mais il prend le lecteur au début et il le lâche qu'à la fin sans vraiment vous ennuyer un instant. Alors c'est pas aussi fort peut-être que du Ron Rash, ça se passe pratiquement dans la même région, un tout petit peu plus au sud, mais c'est quasiment c'est aussi poisseux et on sent vraiment ce même sud des États-Unis qui est vraiment terriblement ancien. Je voulais pas dire retardé parce que c'est pas le mot, mais
ben apparemment, dans ces endroits-là, dans ce que décrit Ron Rash, William Gay ou Ace Atkins, ces gens-là, ils sont jamais sortis de leur patelin souvent. Hein.
Ah oui, parce que là, il y en a un qui, il y en a qui ont même, à part pour faire la guerre, parce qu'il y en a que, bon là, c'est la guerre d'Irak et d'Afghanistan. Il y a les plus anciens, c'est la guerre du Vietnam, où il y a même un vieux de la guerre de Corée. Mais voilà, mais sinon, sortis de là, la seule chose qu'ils font, c'est d'aller au bar boire un coup, hein, donc et chasser évidemment. Voilà, donc c'est un roman poisseux comme un peu ceux de Ron Rash. ceci dit, il y a quelques scènes de coups de feu, voire il y a même du tir à l'arc qui sont assez bien menées. Quand je parlais de western, la fin est digne des meilleurs films du genre. J'irai pas comme l'a fait un chroniqueur américain de ce roman jusqu'à le comparer à High Noon, donc qui en français le train sifflera trop froid. J'irai peut-être pas jusque là, mais c'est quand même assez fort. Il faut mentionner une particularité du roman, parce qu'en fait, on est dans le Mississippi, alors vous avez l'impression qu'il fait chaud, tout ça, mais en fait, c'est en hiver. Et contrairement à ce que on peut penser, enfin du moins par ici, dans le Mississippi, en hiver, ça caille. Il y a de la neige. Donc, c'est évidemment un western, mais un peu humide et froid. C'est pas non plus trahir un secret de dire que Colson s'en sort à peu près bien, puisque en fait, si on regarde sur le site de Haight & Kings, il a déjà deux autres enquêtes en VO, donc il devient shérif du patelin qui remplace son oncle. Voilà, un nouveau personnage récurrent. Et je parlais que S. Atkins aime beaucoup la musique dans sa première série, et d'ailleurs, il y en a beaucoup aussi dans ce roman, pratiquement à chaque chapitre, et comme la musique, elle sort souvent des autoradios. Là, il y a quelques scènes au bar, mais avec le jukebox, mais c'est souvent les jukebox ou les autoradios. Et ici, on est dans le sud, et c'est pratiquement que de la country ou du country rock. Et donc, j'ai choisi comme musique une des chansons citées par Colson, une star de la country, la très belle Patsy Cline, et son méga, méga tube, enfin, si vous aimez la country ou la musique américaine, s'appelle Walk After Midnight. Et dans ce roman, il fait effectivement pas très bon se promener après minuit.
After midnight, out in the moonlight, just like we used to do, I'm always walking after midnight, searching for you. I walk for miles along the highway, well, that's just my way.
Cline était dans la ville de Jéricho, décrite par S. Atkins. Elle resterait pas très longtemps toute seule le soir, parce que les hommes là-bas ont plutôt tendance à convoiter les jeunes femmes.
Les jeunes doselles, surtout quand elles chantent aussi bien que ça. Bien, moi, je vais vous ramener en France, et non seulement je vais vous ramener en France, mais on va partir pratiquement un siècle en arrière, puisque le roman dont je vais vous parler maintenant se passe en 1918. Je pense qu'il va y en avoir un certain nombre qui vont parler de la Première Guerre mondiale, mais celui-là est très intéressant, très original, et puis il est surtout très bien écrit. C'est un roman qui s'appelle Veuve Noire, son auteur est Michel Quin, et donc, nous sommes en 1918, à Paris, on vient de fêter l'armistice. Cependant, la situation reste très sombre. Les veuves de guerre sont innombrables, les éclopés, les mutilés, les cassés de la Grande Guerre. Tous ces gens-là ont évidemment beaucoup de mal à trouver une place dans la société qui tente de se reconstruire. Et comme le dit Michel Quin au début du roman, en cet après-midi du 11 novembre 1918, Paris est à lendemain de fête qui a mal tourné. Sur la couverture, donc, le livre s'appelle Veuve Noire. On sent Veuve Noire au singulier.
Publié à l'Archipel.
J'allais le dire, ne t'inquiète
Pardon.
Pas. Donc, il y a une très beau, très belle photo de femme. Il va être beaucoup question des femmes. Parce que les femmes, à cette époque-là, tout au moins une fraction d'entre elles, elles aimeraient bien faire partie des nouveaux entrepreneurs, des décideurs, être indépendantes. Elles ont repris beaucoup de tâches, tenu beaucoup les rênes et pris beaucoup de responsabilités pendant que les hommes étaient au front. Et elles n'ont plus envie de lâcher le morceau. En particulier, à commencer par la jeune veuve Léonie Rivière, dont le mari a disparu. Mari est mort, évidemment, pendant la Grande Guerre. L'émancipation de Léonie, ça commence d'abord par le rejet du corset. Elle ose sortir sans corset. Pour elle, c'est déjà une grande victoire. Puis, elle va prendre un amant. Pas vraiment qu'elle l'aime au départ. Elle prend pour le sexe, en gros. C'est le fougueux et très séduisant Edgar Proville. Tout ça en tentant de devenir journaliste professionnel. Il faut dire que depuis quelque temps, Léonie fréquente le milieu dont on a dit que c'était le milieu bohème. Apollinaire, qui meurt dans le roman. Modigliani, qui part en très bonne santé. Picasso, qui a encore de longues années devant lui. Et donc, quand Prouville lui demande d'entreposer des toiles de ses futurs grands noms de peinture, ben elle trouve cela tout à fait normal. Quelques jours plus tard, Prouville disparaît. Elle va avoir de cesse de poursuivre à la fois son amant et son rêve d'indépendance, donc son métier de journaliste. Et pour ces deux rêves, elle va être aidée d'un photographe qui lui est toujours essoufflé. Il s'appelle Rameau. Et il est soufflé, le pauvre, parce que, comme beaucoup des hommes à la guerre, il a été gazé, donc il a un problème évidemment au poumon. Et puis il est souvent essoufflé parce que il est un petit peu fou amoureux de Léonie, qui ne lui rend pas du tout. Et donc, il va l'aider à la fois dans sa quête de travail, de journaliste, et à la fois dans sa quête de son amant. En gros, l'écrivain, dans ce livre, va nous livrer une mosaïque d'histoires, plein d'anecdotes, des trafics. Par exemple, ces bellâtres qui s'inscrivaient dans des agences matrimoniales peu scrupuleuses pour attirer les veuves de guerre. On passe de l'appartement de Modigliani au bureau du Tigre, Clémenceau, le père la victoire. Et puis, toujours et encore, mais il faut encore le souligner, les ignominies de cette guerre, les lâchetés, les cruautés, les exactions. Parce qu'on n'a plus rien d'humain quand on a été dans les tranchées. Je cite encore Michel Quin, parce qu'ils étaient commandés par des bouchers galonnés. Cet auteur français, on le sait depuis quelques années, a vraiment beaucoup de talent pour mettre ses mots, son style, au diapason d'une époque, d'une ambiance. Sans artifice, on est plongé dans l'après-guerre, et si certaines histoires sont un petit peu embrouillées, le ton est toujours juste. La narration reste limpide et lumineuse dans cette noirceur qu'il décrit sans aucune surenchère. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'avais oublié l'éditeur, mais c'était exprès parce que je voulais dire deux mots sur la collection dans laquelle est publiée Veuve Noire. C'est une collection qui se veut un peu de polar historique, mais je dirais plus de roman noir historique. D'ailleurs, Jacques, tu nous avais parlé il y a quelque temps des Anneaux de la Honte de François Tomaso.
C'est ça, qui se passait en 36 pendant les Jeux Olympiques et les Jeux Olympiques.
Où Hitler n'était pas loin.
Voilà, et les Jeux Olympiques qu'ils avaient tenté d'organiser en Espagne, les Jeux Olympiques républicains en quelque sorte.
Voilà, alors je vous parlais du milieu de la Bohème, donc il y a une jolie reconstitution de ce milieu-là. Et là, peut-être un peu triste, l'enterrement de Guillaume Apollinaire. Une petite lecture. Au cimetière, ils arrivent juste à temps pour voir le cercueil descendre et que Léonie présente ses condoléances à Ruby, la jolie rousse. Veuve d'Apollinaire épousée voilà à peine 6 mois. Les deux femmes s'embrassent, les gorges sont serrées. Et puis les mots, qu'est-ce qu'on s'en fout. Edgar est demeuré en retrait. Il veut garder en mémoire les images courageuses des tranchées, du chemin des dames. Ils sont venus par des omnibus automobiles à Impérial et, sur le trajet, ils ont croisé les convois funèbres des victimes de la grippe. Semblable à celui de ce pauvre Costreau. Costreau, je rappelle que c'était le vrai nom de Guillaume Apollinaire. Alors que le peuple parisien ne finit toujours pas de fêter la victoire, écrit « À mort Guillaume !» Léonie en a frémi. Comme si on insultait Apollinaire, immense poète, par-delà la mort. Tous ceux qui l'ont croisé, les peintres, les écrivains, les musiciens, tous ceux qui avaient la capacité de saisir son génie, et 12 territoriaux envoyés rendre les honneurs, nous sont venus mesurer l'absence terrible de Costreau. Le petit Cocteau, mince, ascétique, qui assistait à son dernier souffle, paraît jouer les majordomes du ciel, sidéré de douleur et quand même élégant. Lui, qui ne vit que dans la proximité des célébrités et dans l'ombre d'une âme enfuie. Sandra Arella, Picasso. Léonie va tendre la joue à Jeanne, magnifique ombre muette au sourire chagrin, et à Modigliani, passablement ivre, assez pour avoir la douleur digne, et qui va attraper mal dans sa chemise de rien et son mauvais veston côtelé. Pas loin de la fosse, Antoinette Nardet, un type inconnu, petite mine et mine de sans le sou, appuyé sur une canne, un soldat italien au garde-à-vous, en réalité le poète Ungaretti, et Satie, le compositeur du ballet Parade, son costume de velours gris, sa barbichette blanche, ses lorgnons, tout cela se taise avec des gueules d'assassins. Léonie les salue de la tête, et ainsi, de bras en bras, de lèvres en lèvres, elle s'épuise les larmes, se répétant que la joie viendra après la peine. Les mots du pont Mirabeau qu'elle s'est récité à tourner bourrique, quand on lui a annoncé la mort d'Antoine, son mari. Voilà. Sans transition, dit-on.
Sans transition, je vais vous parler d'un court roman de James Salis qui s'appelle Driven, qui fait suite au roman qui s'appelait Drive, qui est paru dans la collection Rivage Noir, comme celui-là. Mais il était paru en 2006. Celui-là, il est paru au mois d'octobre. Il met en scène le personnage emblématique du chauffeur, avec un C majuscule, qui a été interprété, peut-être vous l'avez vu au cinéma, par le brillant Ryan Gosling dans le film du même nom,
très beau,
Drive,
très beau,
de Nicolas Winding Refn. Donc 6 ans ont passé depuis ce Drive. Le chauffeur a donc désormais 32 ans, puisqu'il en avait 26 à l'époque. Il essaye de refaire sa vie tranquillement, discrètement, on le comprend, si jamais vous avez vu le film. Sinon, de toute façon, il n'y a pas vraiment besoin de savoir. On sait juste qu'il se planque. Il se planque dans la région de Phoenix, en Arizona, dans le sud des États-Unis, le sud chaud. Et ça commence sur les chapeaux de roue, si on peut dire. Il pensait être bien tranquille, mais 2 individus suspects arrivent. Le chauffeur est pourtant prêt, mais une baston éclate. Et c'est sa compagne, Elsa, qui prend une balle dans la tête et meurt.
Commence bien.
Le chauffeur va passer les 170 pages qui suivent à tenter d'échapper au tueur à ses trousses, tout en tentant de les éliminer. De planque en abri provisoire, il va fuir et revenir toujours avec de somptueuses voitures vintage, car quand c'est possible, quitte à rouler à fond, autant le faire dans une Fairlane des années 60 au moteur V8 gonflé aux stéroïdes mécaniques ou dans une Chevrolet Bel Air 1957. Mais James Salis ne se contente pas de faire un livre de bagnole. Ne vous attendez pas à une novélisation d'un quelconque Fast and Furious. Ici, c'est un prétexte pour raconter un bout d'Amérique, de nos jours ou presque, une vision plutôt désabusée. Dans la vie, quand il n'écrit pas, James Salis joue dans un groupe de blues, du blues roots, et les joueurs de blues ont souvent une vision désabusée de la vie, sinon il ferait de la pop ou de la techno. C'est donc un roman plutôt musclé, ponctué de bagarres, de virées en bagnole, de bourbons, de vieilles cafettes désaffectées. Et en même temps, il y a des passages très poétiques, un peu comme des talking blues du bon vieux temps.
Voilà, alors on va rappeler l'éditeur, Rivage Noir.
Rivage Noir, James Salis, Driven, et c'est traduit par Hubert Thézenas.
On a juste le temps de...